comme les prévoyants maîtres de chantier, protégez vos ouvrages avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'interruption volontaire de grossesse est un droit en France depuis 1975, un droit encadré, obtenu après des décennies de lutte. La loi permet aux femmes de recourir à l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse et sans restriction de délai lorsque cette interruption est pratiquée pour des raisons médicales. Comme Simone Veil, alors ministre de la Santé, le rappelait en défendant son texte devant les députés français en 1974 au travers de cette phrase devenue historique. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. L'IVG, un droit depuis bientôt 45 ans. Et ce que l'on constate, c'est que le nombre d'avortements est stable depuis le vote de ce texte historique. Aujourd'hui encore, ce droit reste ouvertement contesté, y compris au sein du corps médical. Ces derniers mois, un syndicat de gynécologues avait créé la polémique en menaçant de lancer une grève des IVG. Inquiétude liée aussi à la clause de conscience spécifique relative à l'avortement. Alors si aujourd'hui les autorités ne comptent pas remettre en cause ce droit des médecins à refuser de pratiquer des IVG, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a tout de même demandé aux agences de santé de réaliser un état des lieux de l'interruption volontaire de grossesse en France pour constater si, oui ou non, chiffres à l'appui, son accès est restreint ou menacé. État des lieux sur l'accès à l'IVG en France. Est-ce que le droit à l'avortement recule dans certains pays? Comment évaluer l'impact des avortements clandestins non sécurisés en termes de santé maternelle? Des questions que nous allons aborder avec nos invités. Avec nous en studio, docteur Amélie Jouot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste au planning familial de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Sarah Durocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes animatrice du planning familial, membre du bureau national de cette association. Témoignage de femmes aussi avec vous, Aude Mermillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Il fallait que je vous le dise » paru aux éditions Casterman. C'est une bande dessinée. Et nous retrouverons en ligne du Togo tout à l'heure le docteur Bingo Mbortche, gynécologue obstétricien à l'association togolaise pour le bien-être familial à Lomé. Et puis, illustration sur les droits des femmes en matière de santé reproductive en Europe. Nous joindrons Thomas Giraudot à Varsovie pour évoquer bien sûr la situation en Pologne. En fin d'émission, nous allons retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Amélie Jouot, je l'ai dit en introduction, chiffre des avortements en France, plutôt stable hein, depuis le vote de la loi Veil, 200-220 000 IVG environ chaque année, ce qui va dans le sens de ce que souligne l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce n'est pas parce qu'on limite l'accès à l'interruption volontaire de grossesse que le nombre d'avortements réduit, et ça contredit pas mal d'idées reçues.
Oui, en effet, avant et après cette loi de Simone Veil, il y a des avortements et il y aura toujours des avortements. Et comme on voit depuis cette loi, ils sont stables, comme vous venez de le dire. Et du coup, cette loi permet juste aux femmes d'avoir un accès à l'IVG qui soit plus sécurisé. Et c'est tout. Et il y aura toujours des IVG, donc on continue. Comme ça.
Ce sont des pratiques qui existent depuis, on va dire, la nuit des temps, interrompre une grossesse non désirée. L'énorme différence, bien sûr, je m'adresse au médecin, docteur Jouot, c'est cette sécurité de l'acte qui est très importante en termes de mortalité maternelle. Et ensuite, bien sûr, si la future mère veut mener à bien une grossesse dans l'avenir, bien sûr, pouvoir avoir un enfant, avoir une santé sexuelle et reproductive de bonne qualité, c'est essentiel avec des données sur cette mortalité maternelle. On peut dire simplement que avorter dans de bonnes conditions, c'est aussi une garantie pour sa santé.
Oui, complètement. On permet aux femmes d'avoir accès à l'IVG avec des conditions qui sont bonnes pour leur santé physique et aussi morale. Et du coup, ça permet de pouvoir ensuite avoir une vie fertile qui soit bien meilleure quoi pour elles, sur tous les plans.
Alors, Sarah Durocher, bien sûr, l'avortement, une question qui reste taboue au niveau international, même au niveau national, régulièrement des polémiques avec beaucoup d'idées reçues, avec beaucoup de fausses croyances associées à l'avortement. Justement, ce fait de dire ce n'est pas parce que l'avortement est interdit qu'il y a moins d'avortements, cette simple chose, beaucoup de gens l'ignorent.
Oui, il y a une espèce de pensée assez magique que la sexualité serait... on prend moyen de contraception. Souvent, on entend avec tout ce qu'il y a maintenant, quand même. Enfin, on entend ce genre de phrase. Nous, on reste persuadés que ce que vient de dire ma collègue, c'est qu'il y aura toujours des avortements, que la loi existe ou pas. Il y a quand même toutes les 9 minutes une femme qui meurt dans le monde suite à un avortement non sécurisé. On le sait très bien. Et nous aussi, ce qu'on dit beaucoup, c'est que ça reste un tabou. Ça veut dire que pour nous, l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose d'assez essentiel. Je sais pas, on peut se poser la question, est-ce que quand on était jeune, on nous aurait dit, peut-être, qu'on aurait un jour une grossesse non désirée, ou peut-être un avortement. C'est des choses auxquelles on met un mouchoir dessus, alors qu'on sait très bien qu'il y a une femme sur trois qui fera un avortement au cours de sa vie, en France. Donc, on sait bien que c'est pas juste un cas isolé, c'est bien un grand nombre de femmes qui ont accès à ce droit-là actuellement.
Animatrice au planning familial, santé sexuelle et reproductive, l'avortement, ce n'est pas tout, bien sûr, au planning familial. Il faut sortir aussi de certaines croyances éculées. C'est aussi la contraception. Et il peut y avoir avortement chez des femmes, y compris lorsqu'elles sont sous contraception.
Alors nous, on reçoit beaucoup de femmes qui sont en demande d'avortement, et la plupart des femmes ont un moyen de contraception, ou en tout cas un moyen de contraception juste dans leur sac, parce qu'elles n'ont pas trouvé un médecin, par exemple, pour poser un stérilet. Ça dépend des territoires. Mais on sait très bien que, déjà, il n'y a pas l'information sur tous les moyens de contraception. Tous les médecins ne posent pas ou n'informent pas sur les différents moyens de contraception. Donc, on peut pas avoir un discours en disant il faut absolument que les femmes aient une contraception sans leur donner une information et leur donner la possibilité d'y avoir accès.
Alors, Aude Mermillot, de cette expérience, ce choix de femme, vous avez tiré un récit illustré, bande dessinée qui s'appelle donc « Il fallait que je vous dise ». Tout à l'heure, je citais Simone Veil, « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement ». Et on peut dire que c'est un petit peu la ligne de votre livre. Vous avez avorté, vous aviez cette liberté, vous avez fait ce choix, mais ça a été quelque chose de douloureux, de compliqué. Mmh. Aujourd'hui, vous allez bien, mais ce n'est pas un acte anodin, un acte que vous défendez, mais ce n'est pas un épisode comme ça dans la vie d'une femme.
Non, et alors, pour rebondir sur ce que disait le docteur précédemment, sur le fait qu'il y avait un déficit de mots autour de l'IVG, ça fait que moi, j'ai ressenti que j'avais le droit d'être triste dans un tout petit espace. Il fallait pas que je le sois pas du tout, parce que si je l'étais pas du tout, ça veut dire que j'avais pas compris ce que j'avais fait. Et si je l'étais trop, en même temps, ça va, c'est pas un vrai deuil. Donc
vous dénonciez en quelque sorte une vision normée de l'avortement.
Voilà.
Comment on doit réagir?
C'est ça. Et en fait, comme il y a très peu de récits autour de l'IVG, même un entourage plein de compassion, c'est pas tellement comment entourer ça. Et comme la société en parle pas vraiment, mais même sur les fausses couches, c'est pareil, il y a très peu de récits. Donc on se retrouve un peu coincé avec une tristesse dont on sait pas quoi faire. Et moi, j'ai pas avorté en planning familial, j'aurais sans doute eu un entourage plus présent. Et donc oui, on part de là un peu toute seule, quoi.
Et vous racontez votre histoire personnelle, intime. Ouais. Justement, vous étiez sous contraceptif, sous stérilet, et ça n'a pas marché, pour parler crûment.
Stérilet au cuivre. Alors moi, j'ai eu beaucoup de récits de médecins totalement faux sur potentiellement, parce que j'avais pris des anti-inflammatoires, que ça annulerait une inflammation que donne le stérilet. C'est n'importe quoi. Donc en fait, c'est juste c'est juste que ça arrive. Voilà.
Vous faites partie du petit pourcentage improbable, mais c'était vous.
Et en même temps, y a aussi des femmes qui n'oublient pas leur pilule et qui vont quand même tomber enceinte. Et elles sont beaucoup plus accusées, parce que moi, le stérilet, c'est encore un peu Shazam. Oh, ça va, elle avait un stérilet, elle est tombée enceinte, bon, c'est vraiment pas de sa faute, entre guillemets, mais une jeune fille qui va être hyper fertile et qui va tomber enceinte malgré le fait qu'elle prenne une pilule parce qu'on lui aura donné une microdosée, elle est vraiment beaucoup plus accusée. Elle risque d'être mal reçue, alors que moi, j'étais à peu près tranquille avec un stérilet.
Sarah Durocher, sur cette forme de stigmatisation, de mise en accusation des femmes qui tombent enceintes ou des jeunes filles qui tombent enceintes alors qu'elles étaient sous contraceptif, c'est quelque chose qui revient dans les échanges que vous avez avec ces femmes?
Alors, c'est impressionnant. impressionnant, en fait, le nombre de femmes qui, quand elles viennent nous voir, se justifient. Ça veut dire, nous explique pourquoi elles souhaitent interrompre cette grossesse. Alors, des fois, ça peut faire du bien, juste de poser sa parole et d'être entendue. Mais il y a quelque chose autour de la justification. Et il y a des femmes aussi qui culpabilisent de ne pas culpabiliser.
Mais vous dites se justifier, mais malgré tout, il y a un entretien avant un avortement. Donc, il y a un espace où, normalement, la personne va bien sûr entendre ce qu'on va lui dire, cette information, mais elle a aussi un espace de parole qui est prévu pour ça.
Alors, nous, en fait, au planning, c'est ce qu'on propose. On propose cet espace-là. Il y a des personnes qui... Un entretien autour d'un avortement, ça peut durer... Je parle pas médicalement, hein, je parle vraiment en termes d'accueil. Ça peut durer juste pour avoir des informations. Ça veut dire avoir accès à son droit. Ou au contraire, avoir un temps de réflexion où on se pose, où on peut poser le doute aussi, on peut poser le ressenti. Mais c'est pas quelque chose d'assez automatique. Il y a des femmes, vraiment. Nous, en fait, j'ai été dans un planning où on recevait les femmes en collectif. C'est-à-dire les femmes ne se connaissaient pas. Et elles partageaient, elles avaient entre 18 et 45 ans, elles partageaient leur expérience. Et ça permettait un petit peu de déculpabiliser. Il y avait des femmes qui prenaient beaucoup la parole, d'autres un petit peu moins. Et moi, ce que j'ai pu voir quand même sur les visages des femmes, c'était aussi cette question du soulagement. On parle souvent de douleur, de traumatisme, on dit des mots à l'avortement, mais par contre, il y a des femmes qui étaient soulagées d'avoir eu accès à cette IVG, quoi. Ça veut dire, non, en fait, cette grossesse-là, je ne la veux pas. Je suis dans un pays où j'ai le droit d'accéder à l'avortement, et cette espèce de soulagement, nous, on l'a énormément ressenti. Bien sûr que tout, ça peut être compliqué parfois dans des situations, mais ne globalisons pas sur c'est forcément un traumatisme, c'est fort.
Voilà. Mais quand on dit qu'un acte n'est pas anodin, il n'est pas pour autant traumatisant.
Tout à fait.
C'est un événement.
Ah oui, tout à fait.
C'est un événement.
Tout à fait.
Docteur Amélie Jouot, pour bien expliquer, en milieu médical, les avortements peuvent être réalisés selon deux modalités. Il y a parmi les gens qui nous écoutent des gens qui ne savent pas forcément comment ça se passe. Vous pouvez nous expliquer justement la différence entre chimique ou instrumentale, médicale ou instrumentale.
Donc, effectivement, il y a deux méthodes d'avortement. La première, c'est avec des prises de médicaments. Celle qui est d'ailleurs quasiment la plus utilisée hein, dans deux tiers des cas. Et la seconde, pour des diverses raisons, mais voilà. Et la seconde, c'est la méthode qu'on dit instrumentale, qu'on peut faire par anesthésie générale ou anesthésie locale aussi. Donc la méthode médicamenteuse, on prend un premier médicament, puis 48 heures plus tard, des médicaments qui permettent à l'utérus de se contracter en fait, et puis d'évacuer la grossesse et voilà, et le sang. Et la deuxième méthode, c'est la méthode par aspiration. Donc comme je vous disais, on fait l'anesthésie. Soit général, soit du col de l'utérus. Hein, donc c'est un petit peu comme, je donne cette image des fois, mais comme chez le dentiste, on fait une petite anesthésie locale du col de l'utérus. Et puis ensuite, on aspire la grossesse avec une toute petite sonde qui passe à travers le col.
Qu'est-ce qui va déterminer le choix entre ces deux méthodes ?
Alors, il y a d'abord un choix qui se fait en fonction de la date de la grossesse et donc de sa taille. La grossesse jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, donc 9 semaines sans règles, peut se faire par voie médicamenteuse. Et ensuite, ne peut plus se faire par voie médicamenteuse parce que le risque hémorragique serait un petit peu trop important. Et ensuite, c'est bien sûr au choix de la patiente en fonction de ce qui lui semble le plus simple pour elle. Et il n'y a pas, là encore une fois, il n'y a pas de règles, on n'a pas imposé une méthode ou une autre. Simplement, je vous dis, en fonction du terme, voilà, on n'a pas le choix, mais sinon, les femmes décident de...
Vous vouliez réagir, Sarah Durocher ?
Oui, parce que c'est une des difficultés qu'il y a en France, quand même. Ça veut dire, selon le territoire où vous êtes, il y a une grosse difficulté, c'est les médecins. De trouver des médecins qui veulent bien faire des avortements. Alors, vous pouvez être dans une région où il va y avoir une offre importante, où vous pouvez avoir le choix de la méthode, mais il y a d'autres départements ou d'autres régions où il y a seulement des sages-femmes, donc ils peuvent faire seulement des IVG médicamenteuses, ou encore des médecins qui n'ont pas accès, par exemple, au bloc opératoire et qui refusent l'anesthésie locale. Et des fois, les femmes dans plusieurs départements, plusieurs régions, sont dans l'obligation de faire une IVG médicamenteuse jusqu'à 12 semaines. Donc c'était en fait la loi est très bien là-dessus, ça veut dire qu'elle permet le choix normalement. Nous on le rappelle en permanence, mais on sait très bien qu'il y a des difficultés d'accès et puis la fermeture par exemple des maternités
de proximité.
Ça veut dire que par exemple une femme qui voudra faire une aspiration parce que c'est c'est son choix, parce qu'elle, voilà, c'est réellement son choix. Elle devra peut-être faire parfois 80, 100 kilomètres pour pouvoir accéder à une IVG par aspiration. C'est ce qu'on peut voir, en tout cas, dans certaines régions.
Vous soulignez cette question de l'accès à l'IVG. Justement, en septembre dernier, la ministre de la Santé a demandé un état des lieux après la polémique liée au syndicat des gynécologues. Plusieurs acteurs, plusieurs protagonistes de ce groupement professionnel ont fait des déclarations polémiques, aussi bien dans les termes que dans une menace d'interruption des IVG, demande qui a été formulée auprès de leurs adhérents sous forme de messages qui n'étaient pas censés être rendus publics. Ça a été rendu public, il y a eu polémique. Cet état des lieux a été demandé en septembre. Vous savez où on en est aujourd'hui, Sarah Durocher ?
Alors, on sait qu'il y a des ARS, ça y est, qui ont...
Agence régionale de santé.
Qui ont lancé leur enquête. Nous, on attend, c'est le résultat. Ça veut dire que l'annonce de lancer des enquêtes, c'est bien. C'est les résultats qu'on attend actuellement. On espère que les acteurs de terrain, comme les associations, comme les plannings familiaux, seront aussi concertés, parce qu'on sait qu'il y a des enquêtes de santé publique qui se font seulement dans les hôpitaux. Et c'est pas que les hôpitaux, l'avortement, voilà. Donc du coup, on attend avec impatience, même si nous, par exemple, on sait, on porte le numéro, la plateforme IVG, hein, puisqu'il y a eu un numéro national IVG qui a été lancé il y a quelques années. Et voilà, on essaye d'actualiser un maximum les données pour que les personnes aient une information au plus juste. Et on sait, voilà, on sait les fermetures de maternité, on sait le nombre de médecins qui, dans certaines régions, se forment et font des avortements libéraux.
Mais justement, est-ce que vous êtes l'un des interlocuteurs dans cet état des lieux ou en l'état actuel, non ?
Oui, on le sera. Oui, on l'est bah, grâce au numéro vert. Et puis, on le sera localement aussi dans les régions.
Alors justement, par rapport à cet accès, il y a un élément très important qu'il faut expliquer aux auditeurs et aux auditrices, c'est la clause de conscience. Les autorités ne veulent pas remettre en question pour l'instant cette clause de conscience des médecins. On va le dire, en fait, il y en a deux clauses de conscience. Une globale, pour les médecins, et une spécifique pour l'avortement. Sarah Durocher, pourquoi une clause spécifique ?
Bah, en fait, elle a été mise dans la loi santé en 1975, c'est-à-dire que dans cette loi-là, on spécifiait la clause de conscience. C'est pour ça qu'on parle de double clause de conscience. Et c'est le seul acte médical où il y a cette clause de conscience qui est appuyée. Donc ça stigmatise l'acte encore. C'est comme et pour nous, c'est important de l'enlever. Il faut juste savoir quand même que dans certains pays, comme l'Italie, les objecteurs de conscience sont à 70%, c'est-à-dire les médecins posent cette clause de conscience. Et on voit des femmes italiennes aller dans d'autres pays européens pour accéder à l'avortement. On sait très bien qu'il faut des moyens pour ça et que toutes les femmes ne pourront pas y avoir accès. Donc nous, aujourd'hui, la crainte qu'on a, c'est cette question d'accès à l'avortement. La loi bougera pas, on pense pas, on n'espère pas. En tout cas, on sera attentif, mais c'est vraiment les questions d'accès.
Oui, vous vouliez réagir, docteur Amélie Jouot.
Excusez-moi. Oui, je voulais ajouter, je suis complètement d'accord avec vous, et je voulais ajouter que dans les maternités ou dans les hôpitaux, quand on recrute un médecin gynécologue ou généraliste pour faire du bloc opératoire, eh bien c'est bien de s'assurer qu'il veuille faire des avortements, hein, parce que sinon c'est sûr que cette clause elle peut s'exercer de façon assez importante.
Est-ce que c'est une question qui est posée justement au moment du recrutement ou pas forcément?
Eh bien, peut-être pas forcément, et puis dans la formation aussi des internes, des étudiants en médecine. Notamment des gynécologues obstétriciens, il serait vraiment important que ces étudiants passent au planning familial, pas seulement faire des IVG au bloc, sous anesthésie générale, de voir des femmes déjà endormies ou qui vont s'endormir, et voir une facette de l'IVG, mais venir voir qui sont ces femmes au planning familial, venir faire aussi des IVG médicamenteuses, parler avec elles de contraception, comprendre leur problématique et leur contexte, et à ce moment-là, peut-être que la façon de voir les IVG commencera à changer.
Aude Mermillot, c'est quelque chose que vous soulignez aussi dans votre livre, le rapport établi avec le praticien au moment de l'acte. Mm-hmm. Dans votre cas, on peut dire que ça n'a pas été forcément très réussi, même si on parle pas vraiment de réussite, c'est pas le vocabulaire, mais on peut dire que la relation aurait pu être meilleure. Qu'est-ce que vous avez regretté, par exemple ?
Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est en fait quand j'ai parlé, donc parce que dans la deuxième partie de mon livre, je raconte la vie de Martin Winkler, et qui donc lui a pratiqué des avortements pendant 17 ans, et en fait ça a vraiment mis en lumière les maladresses du médecin que j'ai vu moi, parce que j'ai eu la chance de pas tomber sur quelqu'un de malveillant, qui était pas jugeant, mais qui était encombré de ma tristesse en fait, et que ça rendait triste lui, je pense, enfin que ça mettait mal à l'aise, donc il va me dire un peu des âneries du genre, mais mademoiselle, si vous êtes triste, gardez-le. Oui, bon, d'accord. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ou bien, quand il me fait l'avortement et que j'ai mal, parce que c'était sous anesthésie locale, et moi, l'anesthésie a vraiment été compliquée. Et il n'arrête pas de me dire, mais non, c'est rien, c'est pas grave, c'est bientôt fini. Et voilà, donc il se rassure, lui, quoi. Et c'était pas méchant.
C'était de la maladresse.
C'était de la maladresse. Et en fait, via l'histoire de Marc, de Martin Winkler, je le comprends après, parce que lui, il va se rééduquer de ça, parce qu'effectivement, il va montrer le manque d'éducation en tant que jeune médecin, où il sait même pas dire à ses patientes comment ça se passe, un avortement. Donc, il va aller demander à en voir pour comprendre l'acte en lui-même. Et quand il va commencer à en pratiquer, il va se rendre compte qu'en fait, qu'il le veuille ou non, il se met à juger les femmes qui viennent et qui reviennent, parce qu'il aime pas leur faire mal. Et il aime pas que ce soit sa main à lui qui fasse souffrir une femme. Et c'est grâce à son entourage de collègues, femmes, féministes, infirmières, etc., qui va remettre tout ça en doute en se disant « mais en fait, moi, je suis là pour les accueillir au mieux et mon encombrement personnel n'a pas sa place. Je suis juste là pour encadrer ce qu'elles vivent. Et après, si elles refont 3-4 avortements parce que leur vie fait que, c'est pas à moi de poser un jugement là-dessus. »
Alors, on va reparler de cette clause de conscience indirectement. Hein. Vous parliez tout à l'heure de l'Italie, la proportion de médecins réfractaires très importante là-bas, avec justement cette fameuse nécessité de quitter le pays pour bénéficier d'une IVG. Eh bien, en Europe, parmi les pays qui ont les conditions les plus restrictives en matière d'avortement, eh bien, on trouve la Pologne. Pour en parler, on retrouve à Varsovie Thomas Giraudeau, correspondant de RFI. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, Thomas, dans quel cas précisément les femmes peuvent-elles avorter en Pologne ?
Eh bien, depuis une loi de 1993, les femmes peuvent avorter dans 3 cas, à la suite d'un viol ou d'un inceste, si la grossesse comporte des risques mortels pour la mère. Enfin, en cas de malformation grave du fœtus, c'est ce dernier cas qui justifie l'immense majorité des avortements légaux en Pologne. Les statistiques les plus récentes concernent l'année 2017. Il y a eu exactement 1057 avortements légaux en Pologne, selon le ministère de la Santé, dans un pays qui compte près de 40 millions d'habitants.
Et du côté des avortements clandestin alors, Thomas Giraudeau, combien y en a-t-il ?
Alors, ils sont évidemment très difficiles à évaluer. Le chiffre le plus souvent cité en Pologne est celui que donne la Fédération pour les femmes et le planning familial. Sa présidente parle de 100 à 150 000 avortements clandestins chaque année en Pologne.
Alors voilà pour la situation actuelle. Et ces dernières années, ce droit, donc on l'a compris, déjà très restreint à l'avortement, a pourtant été menacé, c'était le cas encore l'année dernière, sous la pression, Thomas, notamment des milieux ultra-conservateurs.
Oui, la première attaque la plus brutale date de 2016, quelques mois après l'arrivée au pouvoir du Parti Droit et Justice, le PiS. Un projet de loi a été présenté au Parlement polonais. On peut le résumer en 2 mots, stop avortement. À l'origine de ce projet, une fondation proche de l'Église catholique, Ordo Iuris, elle voulait interdire tout avortement en Pologne, sauf en cas de danger de mort pour la mère. Le projet de loi prévoyait jusqu'à 5 ans de prison pour les femmes et toute personne les ayant aidées.
Alors qu'est-ce qui a empêché l'adoption de cette proposition ?
De gigantesques protestations à l'automne 2016, Charny Protest, les marches noires. Beaucoup ont également participé à une grève générale des femmes. Face à ces mobilisations massives, le Parlement a donc finalement rejeté le texte. Mais les militants anti-avortement ont présenté de nouveau, début 2018, un projet pour une interdiction, y compris en cas de malformation du fœtus. Je le rappelle, cette interruption médicale de grossesse, c'est le principal motif des avortements légaux en Pologne. Le projet était notamment soutenu par le président de la République, Andrzej Duda, nouvelles manifestations qui ont encore fait plier l'exécutif. Le projet a été renvoyé en commission parlementaire, gelé pour l'instant. Il faut dire que selon un récent sondage, 80% des Polonais sont pour la libéralisation de l'interruption médicale de grossesse ou le maintien de la loi actuelle.
Alors donc Thomas, malgré plusieurs tentatives de restreindre l'avortement, la loi sur l'IVG n'a pas bougé depuis plus de 25 ans. Mais dans les faits, est-ce qu'elle est vraiment respectée ?
Non, parce que les gynécologues peuvent faire usage de leur clause de conscience, refuser de pratiquer une IMG. C'est le cas de près de 4000 médecins en Pologne, selon l'association Strajk Kobiet, la grève des femmes. Conséquence, dans certaines régions polonaises, il est quasiment impossible d'avorter légalement. En difficulté, certaines femmes partent même à l'étranger avorter, le plus souvent en Allemagne ou en Slovaquie. Des associations les accueillent sur place et des cliniques ont des services spécifiques pour les Polonaises. Certains sites internet de ces établissements sont d'ailleurs rédigés en polonais.
Merci beaucoup Thomas Giraudot. Je rappelle que vous étiez en ligne de Varsovie.
RFI.
Aude Mermillot, est-ce que vous diriez qu'il vous a fallu un temps de convalescence après votre propre avortement ?
Oui, alors il y a eu la convalescence physique déjà, parce que c'était pas anodin quand même. Et ensuite, oui, il y a eu. Moi, j'ai l'impression que ça m'a pris une petite année. Mais encore, je veux juste préciser bien quelque chose parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je suis pas prescriptrice. Moi, je raconte juste mon avortement.
Ah oui,
donc
c'est
les femmes qui sont
c'est
vraiment
une expérience
juste soulagées.
Expérience personnelle.
Voilà, tout va bien, voilà. Mais moi, ce que je dis, c'est que quand on a une rupture amoureuse, par exemple, c'est tout à fait ok ou un deuil dans une famille ou tout ça. C'est acquis qu'on a le droit d'être triste un petit moment. Et là, moi, ça m'a pris un petit moment pour que cette tristesse disparaisse. Et ça ne remet absolument pas en compte le choix que j'ai fait. Et je me suis par contre jamais sentie coupable. Une seule seconde. J'ai été triste, mais je ne me sentais pas coupable.
Est-ce que vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été assez informée ou vous êtes arrivée en pleine connaissance de cause ?
J'ai été informée techniquement de comment ça se passait. J'ai pas été informée sur la douleur physique et j'ai pas du tout été informée sur éventuellement le sentiment de deuil qu'on pouvait avoir. Non, ça je l'ai vraiment découvert au fur et à mesure et en plus dans le silence le plus complet. Donc voilà.
On va justement tout de suite donner la parole à l'une de nos auditrices. Et cette auditrice, c'est Marie. Marie qui est au Cameroun, à Yaoundé. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'avoir appelé pour ce témoignage. Alors j'aimerais dans un premier temps, Marie, que vous puissiez un petit peu nous raconter votre histoire.
Oui, bon, il y a de cela, en 2018, j'avais 26 ans, j'ai eu à faire une IVG. À cause de mon partenaire avec qui j'étais à l'époque, il a décidé de ne pas reconnaître la grossesse. Et avec la famille, c'était un peu difficile. Bon, un mois après l'IVG, je l'ai fait, j'étais à 3 mois de grossesse. Bon, que ça n'allait pas, je continue à signer, j'ai porté les garanties pendant un mois. J'ai décidé d'aller faire une échographie. Le monsieur qui m'a fait l'échographie m'a dit, mais bon, tu as fait l'échographie, elle a une IVG, ça s'est mal passé, va revoir le gars qui t'a fait ça. Parce qu'un ami m'avait amené chez un infirmier au quartier. On a fait. Mm-hmm. Bon, comme c'est proscrit ici au Cameroun, bon, ça se passe un peu dans les quartiers. Ça se passe de bouche à oreille, quoi. Mm. Je suis repartie voir le monsieur. Il a fait maintenant un deuxième curetage. Je pense que c'était un peu comme la blague. Et après le curetage, je me dis, bon, tu sais, bon, pour que ça soit bien, il faut que je refasse un rapport avec toi, un rapport sexuel. Bon, moi, je ne comprenais pas, j'étais perdue, j'étais désemparée.
Nous sommes désolés, c'est la peine, ne peut aboutir. Votre correspondant.
Ah, une coupure de ligne alors que Marie était en train de nous raconter comment ça s'était passé pour elle. On va bien sûr essayer de la rejoindre tout de suite pour avoir la suite de son témoignage. Ce récit d'une IVG clandestine qui a été donc faite par un infirmier avec des conséquences puisqu'elle a dû retourner sur place avec des propositions, on va le dire pour le moins très malhonnêtes de cet homme après cet avortement. On va la reprendre en ligne parce que je pense qu'elle a des questions à adresser aux personnes, aux invités de Priorité Santé. Tout de suite, je me tourne vers vous, Sarah Durocher. La première question que pose, sans la poser, Marie, c'est sur l'interdiction de cet avortement. C'est le cas pour elle au Cameroun, c'est le cas dans beaucoup d'États de la planète. On voit ce droit qui est de plus en plus limité, par exemple aux États-Unis. L'actualité vient encore de nous le dire dans certains États américains, même si l'avortement reste légal au niveau fédéral, au niveau de la Cour suprême. Les anti-choix veulent justement limiter ce choix au niveau national. Comment, quand on est dans un pays où l'avortement est un droit, on regarde justement ces pays où l'avortement est prohibé.
En fait, nous, on a la chance d'avoir la loi. Comme vous l'avez dit, il y a des pays où il n'y a pas la loi. La seule chose, c'est qu'il y a quand même des mouvements très organisés, dont les États-Unis. Il faut quand même juste savoir qu'aux États-Unis, il y a eu 300 lois depuis le début de l'année pour restreindre l'avortement. Et on se sent très loin de ça. Sauf que dans les pays européens, il y a aussi des anti-choix qui sont en train de s'organiser, que ça soit au niveau européen, que ça soit au niveau national. Voilà. Alors au départ, je pense qu'on les a un peu sous-estimés en termes d'impact. Sauf que là, ils sont vraiment en train de s'organiser. Souvent, quand on dit ça, on dit oh, vous êtes pessimiste. Voilà. Sauf que nous, on voit bien les enjeux qui sont en train de se mettre en place. Et il est certain que via la formation, via les espaces de pouvoir, via les personnes directement, hein, puisqu'il y a quand même des supports aujourd'hui qui désinforment les femmes en France.
C'est pour ça justement le délit d'entrave numérique. 2017, ça a été voté par le Parlement. Il y avait eu toute une discussion avant. Pour vous, c'était quelque chose d'importance. Je m'explique. Ça veut dire que certains sites, par exemple Internet, détournaient des patientes de la véritable information sous couvert de logos ou de noms sur l'IVG, incitaient en fait les jeunes filles ou les femmes à ne pas avorter en tenant des discours moraux ou en développant des fausses informations.
Oui, ça veut dire que vous recherchez une information, on vous parle pas, on est toujours sur la question d'information et d'éducation à la sexualité, on vous donne pas beaucoup d'informations, vous allez sur Internet, vous cherchez, vous trouvez un site super joli, vous appelez, et là, on va vous expliquer que c'est pas forcément une bonne chose pour vous, on va essayer d'une voix hyper agréable, hein, de vous détourner un petit peu de votre choix, et on sait par exemple qu'il y a eu des situations où les femmes étaient harcelées par téléphone, hein, ça veut dire des rappels. Il n'y avait pas de site hein, sur l'IVG, ça a mis énormément de temps quand même. Hein. C'est Marisol Touraine hein, qui a lancé à l'anniversaire de la loi de Simone Veil, les 40 ans, qui a sorti un site. On n'en avait pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas de site ivggouv.fr. Il a mis du temps à arriver, on l'a aujourd'hui. Et dans les premiers temps, il n'arrivait pas en premier, c'était un autre site qui est arrivé, qui était anti-choix pour le coup.
Et est-ce que la loi a changé les choses ?
La loi a changé les choses, puisque actuellement, vous tapez IVG, normalement, il arrive en premier, et ça vous donne une information juste et assez objective en termes de droits et d'accès.
Vous vouliez réagir, Audemer Millot ?
Oui, parce qu'en fait, moi, l'année dernière, pour mes recherches pour mon livre, j'ai appelé donc le fameux second site qui arrive en second et qui est donc anti-choix. Et alors, ils se fichent royalement de la loi. Hein. Ils sont dans l'illégalité la plus complète. Moi, ils m'ont asséné des informations totalement erronées. Et effectivement, en me rappelant, en m'envoyant des textos pour vraiment me convaincre que j'allais faire une dépression totale et être alcoolique et dépressive pour toute ma vie si j'avortais, quoi.
Donc, avec véritablement un travail de désinformation pour limiter justement le recours à l'avortement.
Voilà.
Alors hélas, on n'a pas réussi à rejoindre Marie en ligne du Cameroun de Yaoundé. On avait préparé l'entretien avec elle avant l'émission. Elle nous avait raconté justement qu'au-delà des problèmes physiques qu'elle avait ressentis suite à cet avortement clandestin, eh bien, elle avait un véritable poids moral lorsqu'elle croisait des enfants. Elle ne semblait en fait pas préparée à cet acte et aujourd'hui se trouvait en souffrance par rapport à ça, difficile de trouver un interlocuteur, en tout cas on imagine, quand l'acte est interdit, parce que le fait d'avoir le droit d'avorter, c'est aussi d'une certaine manière, même si c'est pas toujours vrai, c'est aussi avoir le droit d'en parler. Est-ce que l'une d'entre vous veut réagir à cette question? Le fait que ce soit légal, c'est aussi, on va dire, même s'il reste des tabous, même s'il reste de la stigmatisation, on n'est plus une criminelle comme c'était le cas avant, puisqu'il y a encore des États qui criminalisent ce geste, non pas simplement pour les praticiens, mais aussi pour les femmes. Docteur Jouot, c'est quelque chose qui est important, cette libération de la parole des femmes.
Oui, complètement. C'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est vrai, quoi. Il faut que les gens arrêtent de penser que quand on fait une IVG, on a tous ces mots-là qui ressortent. Il y a une loi, donc bel et bien, on a le droit de faire des IVG, premièrement. Et puis, quand on voit comment les femmes qui arrivent, qui culpabilisent comme ça en consultation, en fait, on a envie de dire aux gens, alors, quand on fait une IVG, on n'est pas contre la vie. Au contraire, en fait, on a envie d'avoir une vie de famille, de femme, avec ses enfants, je sais pas, plus tard, qui soit quelque chose de positif et qui rende des gens heureux, en fait. Donc on n'est pas anti-vie, anti...
On se projette dans l'avenir aussi.
Voilà, on se projette dans l'avenir et on fait un acte plutôt responsable du coup parce que on a envie de mettre au monde des enfants qui vont pouvoir avoir des conditions de vie ben, sympathiques. Et du coup, ça, quand on arrive à avoir cette conversation-là avec les patientes, plus la loi, comme vous dites, bah déjà, ça fait du bien et ça limite les effets au long cours, de dépression au long cours comme ça, après une IVG, de se dire, dès qu'on voit un enfant, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, mon Dieu, je suis vraiment une mauvaise personne. Ben non.
Mais en même temps, c'est vrai que l'environnement dans lequel on vit est très important par rapport à ce sentiment et cette vision de soi-même. Sur le continent africain, une dizaine de pays interdisent totalement l'avortement, sans exception, notamment les deux Congo, le Gabon, la Mauritanie ou le Sénégal. Seule l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et la Tunisie ont légalisé l'IVG sans restriction de motivation. Mais malgré toutes ces restrictions, 15% des grossesses se termineraient chaque année par un avortement. En Afrique, tout de suite, une illustration va partir pour le Togo.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Bingo Mbortche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien à l'Association togolaise pour le bien-être familial à Lomé. Docteur Mbortche, quelle est aujourd'hui la situation au Togo en matière d'avortement?
Il faut noter que sur concernant la loi sur la santé de la reproduction donc de 2007, l'avortement n'est autorisé que sur prescription d'un comité de trois médecins dans les cas suivants. Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence donc d'un viol constaté ou d'une relation incestueuse prouvée, lorsqu'il existe au moment donc du diagnostic une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité. Cependant, il est important de noter qu'il y a une différence entre ce que la loi dit et comment elle s'applique en pratique. Les quelques raisons retrouvées sont une insuffisance donc de la dissémination de cette loi et l'absence des textes réglementants. Espace à pratique au niveau du pays.
Ça veut dire que même des femmes qui normalement devraient accéder à une IVG pour ces cas précis, eh bien ces femmes n'y ont pas forcément droit?
Elles n'ont pas forcément droit, en dehors donc des situations où la poursuite donc de la grossesse met en danger la vie de la femme.
Et pourtant, docteur Mbortche, ce que vous soulignez, c'est que dans de nombreuses régions du Togo, eh bien, il y a un véritable problème d'accès à la contraception. Tout à l'heure, on parlait de ces avortements en France qui sont effectués sur des femmes, y compris sous contraception, parce qu'il y a un échec contraceptif. Là, on va beaucoup plus loin, puisque ces femmes, dans beaucoup de cas, n'ont pas accès à la contraception.
Oui, il faut noter qu'au niveau du pays, il y a un plan donc de repositionnement donc de la planification familiale. Et qui met en action des stratégies pour rapprocher, n'est-ce pas, les services de contraception donc des populations. Donc durant ces dernières années, les stratégies entre autres sont la distribution à base communautaire, les cliniques mobiles et les stratégies mobiles. Tout ceci pour rapprocher les services de contraception vers les communautés. Donc ce qui fait que depuis les études de l'EDS de 2013-2014, la prévalence contraceptive était autour de 17%. Au jour d'aujourd'hui, cette prévalence contraceptive est autour donc de 23%, concernant donc les méthodes modernes. Donc nous disons que ce sont des stratégies, des actions novatrices qui permettent, n'est-ce pas, d'augmenter la prévalence contraceptive dans le pays, et ceci pour diminuer le nombre donc des grossesses non prévues qui demandent souvent les avortements dans le pays.
Alors, des programmes en matière de contraception, mais ce sera notre dernier point. Malgré tout, les soignants, les médecins, les infirmières, les sages-femmes doivent gérer les conséquences d'avortements clandestins, docteur Mbortche.
Oui, les conséquences des avortements clandestins sont vraiment énormes. Il faut noter qu'au niveau donc, du Togo, les complications donc, des avortements clandestins à risque sont causées du décès maternel donc, dans 16,9% des cas. Et des complications infectieuses, hémorragiques, voire donc des perforations utérines, intestinales, vésicales et rétales sont également élevées donc dans le pays. C'est pourquoi au niveau donc du pays, il y a un programme de soins après avortement. Et ce programme est mis à l'échelle au jour donc d'aujourd'hui, où les prestataires, les praticiens sont formés à prendre en charge correctement donc les complications post-avortement. Et au cours donc de cette prise en charge, on insiste sur l'administration donc des méthodes contraceptives, ceci dans le but d'éviter d'autres grossesses.
Merci beaucoup, docteur Bingo Mbortche. Merci. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à l'Association togolaise pour le bien-être familial.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Docteur Amélie Jouot, dans votre planning familial de Saint-Denis, vous accueillez des femmes migrantes. Dans quelle mesure la situation de ces femmes déracinées peut encore compliquer la qualité de leur santé sexuelle et reproductive? Comment est-ce qu'elles agissent, comment elles réagissent face à un avortement?
Ben, en fait, plutôt pareil que toutes les autres, sauf que souvent, il y a d'autres problématiques qui se mettent en place en plus. Les problématiques liées à la migration et à souvent sur le parcours migratoire des agressions sexuelles et donc ça complique en ce sens l'accès à l'IVG, mais au final au cours des différentes consultations, on se rend compte qu'elles ont les mêmes problématiques que toutes les autres, quoi.
Tout à l'heure, Aude Mermillot, vous évoquiez justement l'expérience de Martin Vinclair, Marc Safran, son nom dans la vraie vie, avec justement tous ces petits gestes qu'il a appris, non pas pour soulager, mais pour accompagner les femmes, des gestes qui sont tirés de l'expérience personnelle, qui justement vont changer entre une IVG qui va peut-être être mal vécue par une femme et quelque chose qui va se passer, on va dire, beaucoup plus naturellement. C'est ça aussi, dédramatiser, simplifier, non pas encore une fois, ne pas banaliser, mais faire en sorte que tout se passe au mieux, c'est quelque chose d'essentiel.
Oui, alors lui, sa position, c'est vraiment déjà de se positionner comme homme, donc avec toute l'humilité de se dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans le corps de ces femmes, d'écouter ses patientes et de remettre en question ce que l'école de médecine lui a appris pour favoriser les récits de ses patientes. Et donc, ça va passer aussi bien par mettre un petit coussin sur la chaise obstétricale pour qu'elle soit plus confortable et ne pas leur asséner des informations sur la contraception juste après qu'elle soit sortie de l'avortement, parce que c'est pas un moment où elles ont forcément envie d'entendre tout ça. Et c'est voilà, c'est et surtout faire une situation d'accueil et de bienveillance où elles ne sentent absolument pas le jugement. Donc, ça va aussi être s'informer entre collègues du nombre d'avortements qu'a vécu cette femme en particulier, parce qu'on va pas accueillir un premier avortement comme un troisième. Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle en a pas? Enfin voilà, ça c'est vraiment ne pas appliquer une recette de cuisine et un peu adapter à la patiente qu'on voit et mettre les jugements au placard, quoi.
Bah, traiter non pas un corps, mais une personne, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce que permet aussi de comprendre votre livre, Aude Mermillot, parce qu'il y a des images, des choses très simples qui sont visualisées sur cet avortement. C'est peut-être aussi important, docteur Amélie Jouot, on arrive à la conclusion de notre échange, de sortir d'une forme d'omerta, d'écrire les choses, en parler, tout simplement.
Oui, puis... On se rend bien compte que une fois que on reçoit en consultation les patientes, qu'on discute de toutes ces problématiques, finalement, de la patiente au soignant, et ben c'est pas si compliqué de faire les différentes problèmes, enfin procédures en rapport avec l'IVG, la contraception, la sexualité, etc. Donc
Pourquoi est-ce que ça peut sembler aussi parfois complexe d'en parler, Sarah Durocher, sera le mot de la fin, parce que la loi n'est pas finalement si ancienne, ou c'est parce que cet interdit reste ancré dans les esprits?
Je pense que c'est l'interdit qui reste ancré, ça veut dire... Enfin, nous on aime bien dire aussi, il y a quelque chose autour du rôle féminin quand même autour de la maternité. Ça veut dire, est-ce que vous avez déjà vu une pub d'un test de grossesse où la personne n'est pas contente? Bah nous, ça nous arrive tout le temps. Et en fait, souvent, c'est ce qu'on renvoie aux femmes. Bah vous, en tout cas, ça n'a pas été une bonne nouvelle pour vous. Et on sait très bien qu'on essaye d'assigner quand même cette question de la maternité de manière régulière. À 30 ans, vous n'avez pas d'enfant, on va vous poser la question de qu'est-ce qui se passe. On sait bien qu'on avance, mais il y a encore du chemin à faire.
Encore du chemin à faire. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Docteur Amélie Jouot, médecin généraliste au planning familial de la Maison des Femmes de Saint-Denis. À vous, Sarah Durocher, animatrice au planning familial, membre du Bureau national. Et Aude Mermillot, auteur de l'ouvrage publié chez Casterman. Il fallait que je vous le dise. Alimentation et santé, on en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. On va parler d'un produit très connu, hein, on croit qu'il n'a pas de mystère. Et pourtant, il s'agit du miel. Eh bien, on va commencer, Stéphane, par le commencement. Le miel, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une substance sucrée
qui est plus ou moins liquide et qui est fabriqué par les abeilles à l'aide du nectar des fleurs. Alors, il peut cristalliser ou rester très liquide, ça va dépendre de sa teneur en fructose et en glucose, et il faut savoir que plus il y a de fructose, et plus sa consistance va rester liquide. Le miel est apparu il y a très très longtemps, hein, dans le langage au Xe siècle, mais on sait que bien avant, déjà les Égyptiens l'utilisaient, hein, pour embaumer leurs morts, donc c'est quelque chose qui est apparu il y a très 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 longtemps. Il est utilisé maintenant très peu sous sa forme, j'allais dire, naturelle, où on va chercher dans la nature le miel, puisque depuis la domestication des abeilles, les ruches artificielles, il est beaucoup plus produit sous cette forme-là, en ruche artificielle. L'autre intérêt de cette production en ruche artificielle, c'est aussi qu'en plus du miel, eh ben, on peut aller chercher le pollen, la cire, le propolis et la gelée royale. Donc on a la possibilité d'avoir le miel et plusieurs autres produits composites.
Et maintenant, du côté de sa composition, Stéphane?
Alors, il contient, c'est pas vraiment une surprise, on l'a dit, c'est un produit sucré, donc plus de 80% de glucides, c'est-à-dire de sucre, principalement de deux sucres, hein, le glucose et le fructose. Et du coup, cette composition-là, qui pourrait faire peur d'un côté en disant « ouais, c'est que du sucre, attention », ben, il y a beaucoup d'études qui ont quand même montré qu'il y a trois rôles assez intéressants du miel. Le premier, c'est que c'est, en plus de ces sucres, une bonne source d'antioxydants. Donc, ils vont avoir un rôle contre les radicaux libres, qui sont des substances toxiques qui vont engendrer des problèmes cardiovasculaires ou certaines formes de cancer. Et là, il y a un petit truc à savoir, c'est qu'en général, plus le miel est foncé, plus il va contenir des flavonoïdes, donc des antioxydants. Donc, en général, plus le miel est foncé, plus il est protecteur sur les antioxydants. Ensuite, le miel, ce que beaucoup de gens savent et qui est de plus en plus à la mode, c'est son côté cicatrisant, anti-inflammatoire et antibactérien. Et enfin, le miel, c'est une autre propriété intéressante, il a un pouvoir sucrant très fort, c'est-à-dire que le goût sucré est très fort, donc pour le même goût sucré qu'on va vouloir, on va mettre moins de miel qu'on mettrait par exemple de sucre blanc classique, donc il a aussi cet intérêt-là d'être utilisé en plus faible quantité à pouvoir sucrant égal.
Alors Stéphane, certains s'interrogent, on nous questionne sur les vertus du miel lorsqu'on souffre de diabète. Est-ce qu'on peut prendre du miel pour sucrer l'alimentation lorsque l'on est diabétique?
Alors déjà, peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a deux grandes sources de sucre. Hein. Les sucres qu'on appelle les sucres simples, donc celui dont on vient de parler, le miel, c'est aussi le saccharose, le sucre qu'on va mettre dans son café, le sucre blanc classique ou qui vont servir à faire les bonbons. Et après, il y a les sucres complexes, ça va être l'amidon, c'est le sucre qu'on va retrouver dans les céréales comme le sorgho, le fonio, le mil, le riz ou le manioc ou la pomme de terre. Et en fait, du coup, on se rend compte, parce que c'est la première question qu'on nous pose, on a beaucoup de diabétiques qui disent « je ne consomme jamais de sucre ». Mais en fait, il est quasiment impossible de jamais consommer de sucre. Donc ça, c'est un rappel important. Et du coup, la recommandation, en fait, c'est d'aller vers les sucres complexes et d'en consommer à peu près 250 à 500 grammes par jour, donc sous forme de céréales, de fonio, de riz, de racines, de manioc ou de tubercules. En fait, c'est les sucres simples pour les diabétiques qu'il va falloir réduire fortement.
Alors, justement, pour revenir à ces sucres simples et au miel, Stéphane?
Alors, les personnes qui sont atteintes de diabète, elles doivent réduire vraiment drastiquement cette question de consommation de sucres simples, surtout le sucre blanc et les confiseries. La recommandation actuelle, c'est d'en consommer au maximum 50 grammes par jour, ce qui représente à peu près 10 petites cuillères ou 3 cuillères à soupe et demie. Et c'est une recommandation importante car ce sucre simple, c'est eux qui vont faire lever la glycémie très forte. Alors maintenant, pour revenir au miel, ça va être dans le choix de ces 50 grammes. Et c'est vrai que le miel, par rapport à certains autres sucres, va être un peu meilleur. Déjà parce qu'il a un index glycémique, par sa teneur en fructose qui va être un peu plus bas. Et aussi, ça c'est très important, contrairement aux confiseries, il contient pas de graisse. Parce que souvent, on stigmatise les confiseries comme des produits sucrés, mais souvent on a le mélange des deux, on a et sucré et gras. Donc là, avec le miel, on a un produit qui est que sucré, on n'ajoute pas des graisses en plus. Donc en conclusion, je dirais qu'il faut aller vers les recommandations, c'est-à-dire en teneur globale de sucre simple, pas les dépasser, et qu'à choix égal, le miel peut être un meilleur choix que le sucre blanc ou d'autres formes de sucre et de confiserie.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et notre émission touche à sa fin. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons de l'hypertension artérielle à l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette maladie cardiovasculaire. On attend vos appels 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les prévoyants maîtres de chantier, profitez d'une assurance tout risque chantier. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.